vous ai parlé à plusieurs reprises de la distinction, entre force et contenu, qui est une distinction importante à laquelle un colloque avait été consacré il y a un an, ici même. Et je voudrais revenir là-dessus pour souligner une analogie entre le débat dont je parlais la dernière fois, qui est le débat entre deux façons de concevoir les relations entre la fiction et la non-fiction, les textes sérieux et les textes de fiction. Donc le débat sur les deux façons de concevoir le rapport, dont j'ai parlé la dernière fois, et un débat contemporain sur la façon d'interpréter et aussi bien la cohérence de la distinction entre force et contenu. Je pense que ces deux débats sont liés de près, et je pense aussi, comme je l'ai dit la dernière fois, qu'ils font écho à un débat que j'ai appelé pluricentenaire. Vous n'avez pas un écho, là, ça va? Vous entendez correctement? Donc la distinction force-contenu, on la trouve notamment chez Frege, et je voudrais commenter un peu le texte dans l'article intitulé « La pensée » où Frege l'introduit. Et en fait, il y a plusieurs distinctions, et ça me permettra précisément de clarifier un peu les choses, de lire ce bout de texte. Il dit « Il est possible d'exprimer une pensée sans la poser comme vraie ». Et il faut donc distinguer, dit-il, ces trois choses. La saisie de la pensée, c'est l'acte de penser, l'acte de concevoir quelque chose, de penser quelque chose. La reconnaissance de la vérité d'une pensée, c'est le jugement. Et en troisième lieu, la manifestation de ce jugement, qui est l'affirmation. Quand vous affirmez quelque chose, vous manifestez votre croyance, le fait que vous jugez que la chose est vraie. Et il ajoute, dès qu'on formule une question, est-ce qu'il va pleuvoir demain, par exemple, le premier de ces actes, la saisie de la pensée, l'acte de pensée, est accompli. Parce que pour poser la question, est-ce qu'il va pleuvoir demain, il faut former la pensée, il va pleuvoir demain, et poser la question de sa vérité. On peut dire aussi que même si on se pose la question, c'est-à-dire si on fait un acte mental sur le même plan que le jugement, au lieu de faire un acte linguistique public sur le même plan que l'affirmation, même si on s'interroge soi-même sur la question de savoir s'il va faire beau demain, pour Frege, ça implique aussi toujours, faire cela implique toujours de penser « il va faire beau demain » et de s'interroger « est-ce que c'est vrai ou pas ?» Alors, en fait, il y a deux distinctions ici, peut-être même plus, qui se mêlent. Il y a d'une part la distinction du plan mental et du plan linguistique. Sur le plan mental, il y a le jugement ou la croyance, comme disent les philosophes contemporains. Je précise, pour faire écho à la remarque d'une auditrice la dernière fois, que le mot « croyance » qu'emploient les philosophes n'est peut-être pas très approprié, parce que dans le langage ordinaire, on emploie « croyance » pour un type bien particulier de jugement, fondée sur des justifications, disons, un peu spéciales. Et donc, le mot « croyance », on ne l'emploierait pas souvent dans des contextes où pourtant, moi, je l'emploie, parce que je l'emploie en un sens quasiment technique. Frege a raison de parler de jugement, c'est beaucoup mieux, le terme « jugement » est bien plus approprié pour cette chose-là. Mais l'idée de jugement, c'est l'idée d'une adhésion mentale, d'un assentiment, l'idée de quelque chose que le sujet accepte, un contenu de pensée que le sujet accepte, dont il pense qu'il est vrai ou qu'il correspond à la réalité. Donc il y a le plan mental où on trouve le jugement, et puis il y a le plan linguistique où il y a la manifestation du jugement qui est l'assertion ou l'affirmation. On a, comme je l'ai suggéré, on a la même chose pour ce qui est de l'acte de questionnement. Il y a l'acte linguistique de questionnement, je demande à quelqu'un est-ce qu'il va faire beau demain, mais on a sur le plan mental, quand on s'interroge, quand on doute ou quand on se pose la question, c'est un acte mental qui correspond, mais qui est dans son fort intérieur. C'est ce type d'acte mental qu'on extériorise aussi bien quand on pose la question. Donc il y a la distinction entre le plan linguistique et le plan mental. En même temps que cette distinction, il y a l'analogie entre les deux, parce que, et c'est là l'autre distinction, c'est que dans les deux cas, on peut distinguer deux choses, deux ingrédients. Il y a le contenu, et puis il y a la force. Le contenu, c'est le contenu du jugement, par exemple. le sujet qui juge qu'il doit faire beau demain, le contenu, c'est cette pensée, il doit faire beau demain, à laquelle le sujet donne son assentiment, puisque précisément il juge que c'est le cas, donc il le croit. Mais c'est le même contenu que si le sujet s'interroge, donc là il ne juge pas. Le sujet qui s'interroge, est-ce qu'il va faire beau demain ? Il a en tête le même contenu, mais ce qui est différent, c'est la force. Il n'a pas cet élément d'assentiment. Au lieu de ça, il y a un élément de doute. Et ça, c'est sur le plan mental, mais sur le plan linguistique, c'est pareil. Ce que nous dit Frégueux, c'est qu'une assertion, il va faire beau demain, et une question, est-ce qu'il va faire beau demain ? C'est le même contenu. Mais la force est différente, c'est la force d'une affirmation. Dans un cas, ce que fait le sujet, c'est qu'il affirme la vérité de cette pensée, il affirme qu'il va faire beau demain. Dans l'autre cas, il demande à l'autre de lui dire si c'est le cas ou non. C'est deux actes différents, et on peut parler de deux forces différentes, mais le contenu est le même. Donc cette distinction entre le contenu et la force, on la trouve dans le cas de l'acte mental, puisque comme le dit Frégueux au début, sur le plan linguistique, on peut exprimer une pensée sans la poser comme vraie, on peut faire une hypothèse, poser quelque chose sans pour autant l'affirmer. Ça, c'est une possibilité sur le plan linguistique, mais sur le plan mental aussi, on peut très bien considérer une possibilité, imaginer quelque chose sans pour autant affirmer ou sans pour autant juger que ça correspond à quoi que ce soit. Il y a plein de raisons, disons, parfois, d'envisager des possibilités sans pour autant juger. Donc ça, c'est la distinction entre force et contenu. Et ce qui compte, c'est cette possibilité, c'est cette dissociabilité des deux ingrédients, selon Frégueux. Ça signifie qu'un contenu de pensée peut passer par l'esprit, en quelque sorte. On peut penser quelque chose sans pour autant effectuer l'acte mental de juger que c'est le cas. Ou la question se pose évidemment de savoir si on peut, de cette façon-là, prendre en considération un certain contenu de pensée sans accomplir aucun acte, sans être dans aucun état mental véhiculant l'équivalent d'une force qui n'est pas forcément la force du jugement, mais qui pourrait être quelque chose comme, par exemple, on a dit que la question, le questionnement était un autre type de force. Donc peut-être qu'en fait, il faudrait regarder de plus près pour voir si on peut avoir des contenus tout nus dans l'esprit ou pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut dissocier le contenu du jugement du jugement lui-même, parce que quand on a un jugement qui a un certain contenu, comme lorsque je juge qu'il pleuvra demain, ce même contenu, je peux très bien me le représenter, former cette pensée sans juger. Donc on peut dissocier les deux. Donc ça signifie qu'il y a les contenus et la force, au moins la force judicative, la force de l'assentiment, le jugement, cette force-là, elle est optionnelle. Parfois, les contenus sont accompagnés de la force correspondante et on juge que c'est le cas, et parfois non, parce qu'on est simplement en train de considérer peut-être une hypothèse ou quelque chose de ce genre. Donc on peut dissocier les deux. La force est un élément optionnel qui peut ou non s'ajouter au contenu. Donc ça, c'est une façon de voir très largement acceptée, correspondant à cette distinction entre force et contenu. Et la raison pour laquelle je réintroduis cette idée, à quoi j'ai fait allusion, c'est parce que Frégueux donne toujours, quand il discute ces choses-là, enfin, très souvent, un exemple qui lui paraît très illustratif de la chose, c'est le cas de la fiction. Il dit, dans la fiction, quand vous avez l'acteur sur scène qui dit quelque chose, ben l'acteur, il ne croit pas ce qu'il dit, il n'est pas en train d'accomplir l'acte de jugement. Et d'une façon générale, quand vous avez un texte de fiction, alors ça va être souvent, Frégueux, en fait, il parle souvent de poésie, c'est l'exemple en fait qui l'intéresse particulièrement, mais en tout cas, quand vous avez un texte littéraire, disons, selon Frégueux, les énoncés du texte expriment des pensées pour lui. Mais il n'y a pas l'acte du jugement. Ce sont des énoncés qui sont faits pour susciter, au moins dans un certain type de cas, l'imagination de la part du lecteur. Et l'imagination, c'est un certain contenu de pensée que le sujet appréhende, mais pour lequel il n'y a pas cet acte mental correspondant qui est l'assentiment. si vous pensez au cas dont j'ai parlé, surtout moi depuis le début de ce cours, c'est le cas de la fiction littéraire, par exemple un roman, il y a toutes sortes de scènes qui sont décrites, et le lecteur est censé imaginer tout ça. Et pour Frege, ce qui se passe, c'est qu'il y a toutes ces pensées qui sont évoquées, le lecteur forme ses pensées, mais il ne s'agit pas de poser la réalité des situations décrites. Il ne s'agit pas de réalité, il s'agit de fiction, c'est simplement de l'imagination. On ne va pas au-delà de l'acte consistant à imaginer ces situations. On ne les pose pas comme des situations réelles. Ces propositions exprimées par les énoncés, elles ne sont pas présentées comme vraies, et le lecteur ne les tient pas pour vraies. Donc il n'y a pas l'acte de jugement, il n'y a pas la force. Il y a le contenu, mais il n'y a pas la force. Et c'est ça la façon dont Frege pense à la fiction. Il pense que dans la fiction, on a les contenus, mais on n'a pas la force. Et même souvent, quand il veut dire dans un contexte théorique que là, il y a un contenu, mais il n'y a pas la force, il dit que c'est de la fiction, parce que pour lui, la fiction correspond à cette dissociation. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble énormément, cette façon de voir, et c'est pourquoi je vous en parle, ça ressemble énormément à la théorie que j'ai discutée la dernière fois, qui est la théorie de Matraverse, qui conteste les simulationnistes. Frege nous dit, et donc là j'ai mis les choses sous forme d'un tableau qui ressemble au tableau que je présentais pour illustrer ces positions, notamment de Matraverse, concernant la distinction entre non-fiction, c'est-à-dire les cas de textes sérieux qui visent à communiquer des informations, les textes, les articles de journaux, etc., et la fiction. Donc, pour Frege, la différence entre les deux, c'est, dans les deux cas, il y a de la part du lecteur, du consommateur, celui qui lit un tel texte, il doit comprendre le texte, il doit saisir le contenu, c'est-à-dire il doit concevoir les situations dont il s'agit, qu'on lui dépeint. Et c'est exactement la même chose qui se passe, que le texte soit un texte de fiction ou de non-fiction, il doit y avoir la saisie du sens, la saisie du contenu. C'est ça que nous dit Frege, la saisie des pensées qui sont exprimées. Dans le cas de la non-fiction, l'auteur du texte journalistique communique des informations, cherche à susciter l'adhésion ou la croyance simplement chez la personne à qui il s'adresse. Et effectivement, le lecteur, s'il n'a pas de raison de douter des sources du texte qu'il lit, va accepter les informations et donc juger, accomplir cet acte de jugement, c'est-à-dire ajouter la force. Non seulement il y aura le contenu, mais il y aura une certaine force, un assentiment donné au contenu. Ça, c'est dans le cas de la non-fiction. Et dans le cas de la fiction, nous dit Frege, on s'arrête à la première étape. On imagine, on se représente une situation et on ne va pas au-delà. C'est-à-dire qu'on ne juge pas que cette situation correspond à la réalité. On se contente de l'imaginer. Or, c'est à peu de choses près ce que nous dit Matraverse. Matraverse, souvenez-vous, il dit qu'il offre un modèle en deux étapes, avec une première étape qui est neutre entre fiction et non-fiction. Donc l'interprétation d'un texte, quel que soit le texte, consiste toujours à se représenter son contenu, à comprendre son contenu, c'est-à-dire à bâtir un modèle mental de la situation décrite. Et un tel modèle mental, la construction d'un tel modèle mental relève de l'imagination. Donc il y a une phase neutre qui est la phase d'imagination, où on comprend ce qui nous est dit, on accède au contenu du texte. Et il y a une deuxième étape où on donne ou pas son assentiment. Ça, c'est dans le cas de la non-fiction, parce que la non-fiction vise précisément à susciter chez l'auditeur une adhésion, le but étant que l'auditeur intègre l'information fournie à son arrière-plan de croyance, son encyclopédie mentale. Et quand l'auditeur donne son adhésion, quand il croit ce qu'on lui dit, ben effectivement, à ce moment-là, ce n'est plus de l'imagination qu'on a, ça se transforme en ce que j'ai appelé croyance en utilisant ce terme technique des philosophes pas complètement approprié, mais on peut dire maintenant, suivant Frege, qu'à la deuxième étape, on a le jugement, dans le cas où, effectivement, ayant lu le texte, le lecteur juge que c'est vrai parce que l'auteur du texte est un journaliste fiable, ça paraît cohérent, etc. Alors que dans le cas de la fiction, selon Matraverse, la première étape est la même, c'est l'étape neutre, on imagine, on bâtit un modèle mental de la situation décrite, et on ne va pas plus loin, parce que ce qui est le but de la fiction, c'est simplement de bâtir un modèle mental de la situation décrite. Il ne s'agit pas de prendre cette situation comme pour une situation réelle ou de considérer qu'il y a une information véritablement à tirer du texte. Donc, à la deuxième étape, il n'y a pas de différence, on garde de l'imagination, il n'y a pas cette transformation en croyance. Ça, c'était ma traverse, et c'est en gros l'idée de Frege, on a le contenu et on ajoute la force, ou on ne l'ajoute pas, et dans le cas de la fiction, on ne l'ajoute pas. Alors, cependant, il y a une autre façon de voir les choses. Là, je reviens à cette distinction force-contenu chez Frege, je reparlerai de ma traverse plus tard. Il y a un commentateur célèbre de Frege, Michael Dummett, qui a fait remarquer que cette façon de voir que propose Frege n'est pas la seule façon de voir possible quand il s'agit de la fiction. Et la question se pose de savoir si cette autre façon de voir est également quelque chose qui est disponible de façon générale, pas seulement pour la fiction, mais pour tous les cas où on veut appliquer les distinctions entre force et contenu. Ce qu'il nous dit, Dummett, c'est la raison pour laquelle l'acteur sur scène, il reprend l'exemple de l'acteur, l'exemple souvent pris par Frege, la raison pour laquelle l'acteur sur scène n'accomplit pas l'acte d'assertion n'est pas qu'il fait moins que cela, se contentant d'exprimer des pensées, ça c'est la position de Frege, Frege dit on exprime des pensées, il y a ses contenus, et puis on n'accomplit pas l'acte supplémentaire. Donc Dummett dit, ce n'est pas que l'acteur fait moins que cela, il se contente d'exprimer des pensées, mais il fait plus que cela. Il joue l'accomplissement de cet acte. Donc ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui manque, c'est qu'il y a quelque chose en plus. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que là, ce débat entre la façon de voir de Frege, dans la fiction, on a seulement le contenu, on n'a pas la force. Dans la non-fiction, on a le contenu plus la force. Et cette position-là qui dit que, en fait, ce qui se passe dans la fiction, c'est qu'on a un truc en plus par rapport à la non-fiction et pas un truc en moins, ça ressemble beaucoup au débat dont j'ai parlé la dernière fois, entre d'un côté cette position de ma traverse qui ressemble à celle de Frege, qui est indistinguable, en fait. Et maintenant, on voit la position de Dummett qui est une alternative, mais la dernière fois, j'ai parlé du point de vue des simulationnistes. Selon les simulationnistes, il y a une relation, disons, de dépendance asymétrique entre fiction et non-fiction, c'est que la fiction simule la non-fiction. Ce qui est premier, c'est la non-fiction. Ce qui est premier, c'est l'acte de communiquer des informations. Et dans la fiction, on fait comme si on communiquait des informations. Donc il y a un élément de simulation en plus, il y a quelque chose en plus, et il n'y a pas quelque chose en moins. Donc cet élément en plus, Dummett nous dit, c'est le fait que l'acteur joue l'accomplissement de l'acte, c'est un élément de simulation, de faire comme si. Et du fait de cet élément supplémentaire, le locuteur, l'acteur sur scène qui dit quelque chose, par exemple il frappe aux deux mains, il ne s'engage pas vraiment, véritablement, vis-à-vis de cette pensée qu'il exprime, puisqu'il fait comme si, il ne s'engage pas vraiment. Donc la force de l'assertion est en quelque sorte annulée par la simulation. La force est annulée parce qu'on fait seulement comme si, ce n'est pas réel. Donc il y a les apparences de la force. Ce n'est pas qu'il n'y a pas la force, qu'il n'y a que le contenu, il y a au moins les apparences de la force. Mais cette force, elle n'est pas réelle parce qu'on fait comme si. C'est encore plus évident si vous pensez au cas de la question. J'ai dit qu'on a le cas de l'affirmation et le cas de la question. Quand vous posez une question rhétorique, c'est une fausse question. Vous faites comme si vous posiez une question, en fait, vous savez très bien. La réponse, ce n'est pas du tout le but. Enfin, le but d'une question rhétorique, c'est et tout autre que poser réellement une question. Donc, quand vous posez une question rhétorique, je ne sais pas quel sens, ce sera un exemple. En anglais, on a l'exemple « Est-ce que le pape est catholique ?» Mais je ne crois pas qu'on dise ça en français. Et ça, c'est typiquement une façon de souligner le caractère trivial d'une... Enfin, bon, c'est... Passons, en tout cas. Quand vous faites une question rhétorique, vous ne posez pas réellement la question. Donc c'est encore un cas, c'est un cas intéressant, où la force de la question manque. Mais ce n'est pas qu'il n'y a que du contenu, non. Il y a une force qui est la force de la question, mais elle est simulée, elle n'est pas réelle. On fait comme si on posait une question. C'est ça l'idée de la question rhétorique, le but de la question rhétorique. Et dans le même esprit, une chose que... j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est dans son livre célèbre sur la notion d'esprit, un livre qu'il a publié en 1949, enfin la version anglaise évidemment, Gilbert Ryle fait une remarque en passant très intéressante à propos de l'acte de supposition. Il dit que supposer quelque chose, c'est un accomplissement intellectuel bien supérieur à l'acte d'affirmer ou de juger. Là encore, on peut distinguer le plan mental, le plan linguistique, ça n'a pas beaucoup d'importance. Dans les deux cas, on aura cette distinction. Pour lui, le jugement est premier. Juger qu'il fera beau demain, ça, c'est quelque chose de relativement simple. Et supposer qu'il fera beau demain, faire cette hypothèse, c'est un acte plus complexe qui consiste à simuler le jugement, en quelque sorte. C'est un peu ce que je vous disais quand j'ai parlé de la supposition. Mais dans ce passage, Ryle dit qu'il en est venu à penser cela malgré sa formation et malgré le fait d'avoir longtemps adhéré à cette idée traditionnelle que concevoir quelque chose, c'est-à-dire penser, entertain, comme on dit en anglais, je ne sais pas très bien comment on doit pouvoir dire en français, mais concevoir une pensée ou une proposition, c'est censé être quelque chose de plus simple que l'acte d'affirmation ou de juger, puisque dans l'acte d'affirmation ou dans le jugement, en plus de ce contenu de pensée, on a la force qui s'y ajoute. Et donc, c'est supposé être quelque chose de plus complexe parce qu'il y a cet élément d'assentiment qui vient en plus. Et ce que dit Ryle, ce n'est pas du tout. En fait, ce qui est le plus simple, c'est cet acte de jugement, parce que ce qui se passe dans les autres actes, quand on considère simplement quelque chose à titre d'hypothèse, etc., ce qui se passe là, c'est qu'on a du « make believe », c'est-à-dire du « faire comme si ». Et donc ça, c'est le « faire comme si » qui est plus complexe, parce qu'en fait, le « faire comme si » opère sur l'acte de jugement. On fait comme si on jugeait quelque chose, on fait comme si on admettait quelque chose, et on regarde, par exemple, ce qui en résulte. C'est ce dont je vous ai parlé la dernière fois en évoquant la supposition. Donc, il semble que, de façon générale, on ait un débat où on peut mettre Frege et Matravers du même côté, par opposition à la fois aux simulationnistes sur les questions dont je vous parlais de fiction et autres, comme Walton et Curry, mais aussi Domet et Ryle ont l'air d'être tous de ce côté-là. Et l'opposition concerne la façon de concevoir la relation entre fiction et non-fiction, le point de vue de Frege et Matravers, dont tout le monde est d'accord que dans la non-fiction, qui est dans la communication, quand quelqu'un vous donne des informations, ou quand un journaliste écrit un article et que vous lisez ce qu'il écrit, etc., tout le monde est d'accord sur le fait qu'on a ces deux ingrédients, on a le contenu et puis l'affirmation du contenu par le locuteur, le journaliste, et puis du côté de l'auditeur, il y a l'acceptation du contenu, il y a le contenu lui-même, il y a l'acceptation du contenu. Donc on a l'élément de contenu, l'élément de force. On a cette dualité, contenu-force, que dans le cas de la non-fiction, tout le monde admet qu'on a cette dualité-là. Mais la différence entre ces deux positions concerne ce qui se passe dans la fiction, parce que pour Frege et pour Matravers, dans la fiction, on a seulement le contenu, il n'y a plus la force. Et c'est vrai qu'en un sens, il n'y a pas la force, parce que ce jugement n'est pas vraiment accompli. Donc en un sens, oui, il n'y a pas la force. Mais ils disent qu'il n'y a que le contenu. Alors que ce que nous disent ces autres auteurs, c'est que ce qui se passe dans la fiction, c'est en gros, c'est la même chose que dans la non-fiction, mais on rajoute devant une sorte d'opérateur de simulation. On fait comme si. C'est donc, on a bien ces deux ingrédients, contenu plus force, mais tout ça est à l'intérieur d'une simulation, ou si on veut, ce serait peut-être plus simple de dire que la simulation porte sur la force, pour simplifier un peu les choses. Donc on a bien le contenu, et ce n'est pas qu'on n'a rien d'autre, mais au lieu d'avoir la force, on a la simulation de la force. Donc ça, c'est l'autre position. Donc là, je suis en quelque sorte remonté du débat entre Matravers et les simulationnistes, qui est un débat contemporain en théorie de la fiction. Je suis remonté à un débat plus ancien, qui est autour de la distinction force-contenu et de la façon de concevoir ces cas où la force semble absente, comme les cas de fiction, et dans ce débat entre, disons, Frege et Domet. Et avec Ryle défendant une position analogue à celle de Domet. Mais maintenant, je voudrais monter beaucoup plus loin, parce que, comme je vous le disais la dernière fois, je pense que ces débats, ces deux débats, en fait, sont l'écho d'un débat pluricentenaire. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai employé le mot pluricentenaire. Et donc maintenant, je passe au débat plus ancien pour mettre tout ça en perspective. Je pense que c'est toujours plus ou moins le même débat. Donc, pour partir de cette notion frégéenne de contenu de pensée, pour Frege, les contenus de pensée, c'est un des une des choses qu'il a fait valoir dans sa théorie avec cette distinction force-contenu, les contenus de pensée, pour lui, sont intrinsèquement dénués de force. Ils sont neutres en l'absence d'une opération supplémentaire consistant à les poser comme vrais ou à faire quelque chose avec eux. Mais disons, il y a le contenu lui-même qui est neutre et puis il y a l'opération qu'on lui fait, ce qu'on fait avec le contenu. Et typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on juge, on accepte le contenu, par exemple, dans l'assertion ou dans le jugement. Donc, ça signifie qu'il y a les contenus, et puis il y a une autre, il y a cette opération. Pour l'instant, regardons seulement les cas typiquement de jugement, de croyance, etc. Comme j'ai indiqué, il y a d'autres types de forces, mais on va les mettre entre parenthèses. Donc, il y a les contenus qui sont neutres, et puis il y a une opération supplémentaire d'évaluation du contenu qui peut conduire le sujet soit à accepter le contenu en question, soit à le rejeter. Et quand il y a acceptation, il y a la force du jugement, ou sur le plan linguistique, la force de l'affirmation. Mais l'élément essentiel, c'est la neutralité du contenu. La force est extérieure au contenu. La force, c'est cet acte d'assentiment, d'acceptation du sujet. Un acte est accompli par le sujet, acte mental ou linguistique accompli par le sujet, vis-à-vis d'un contenu qui est intrinsèquement et neutre vis-à-vis de ce qu'on peut faire avec lui. Alors, ce qui est intéressant, quand on part de Frege, comme je le fais, c'est que l'auteur qui a le plus fait pour promouvoir cette conception, cette distinction force-contenu et son emploi en philosophie pour résoudre un certain nombre de problèmes ou pour critiquer un certain nombre de positions, donc l'auteur qui en a le plus fait, c'est pas, on pourrait penser que c'est Demet, parce que Demet a été un des grands commentateur et introducteur de la pensée de Frege, mais il y a eu un autre grand commentateur introducteur qui est Peter Deitch. Et pour ce qui est de la question de la distinction force-contenu, alors qu'on a vu que Demet s'écarte un peu de Frege en suggérant une autre façon de voir, Deitch, par contre, a été un des principaux avocats de cette distinction en montrant qu'elle était très importante et qu'elle permettait de résoudre toutes sortes de problèmes. On parle, par exemple, de l'argument de Frege-Deitch. On parle couramment de ça dans le contexte de discussion autour de ces questions de distinction force-contenu. Or, Deitch, à plusieurs reprises, en passant, certes, à chaque fois, mais quand même à plusieurs reprises, fait remarquer que la conception de Frege, la conception à laquelle lui-même adhère, cette distinction force-contenu où le contenu est quelque chose qui est intrinsèquement neutre et la force est quelque chose qui est extérieure et qui s'ajoute ou pas au contenu, il dit que cette conception n'est pas la seule possible. Et il fait remarquer que pour Spinoza, on ne s'attendait pas à voir Spinoza surgir dans ce débat, mais si, il fait remarquer que pour Spinoza, les contenus de pensée sont intrinsèquement assertifs. C'est-à-dire que, selon Spinoza, on ne peut pas se représenter quelque chose sans poser sa réalité. Se représenter quelque chose, c'est se représenter la chose comme réelle ou comme existant. C'est la même chose. Alors évidemment, dans ce cadre théorique, si vous dites ça, si vous dites que se représenter quelque chose, c'est se représenter la chose comme existante, c'est se représenter la chose comme réelle, et donc on ne peut pas distinguer force et contenu, parce que la représentation est intrinsèquement assertive. Si on dit ça, on va avoir une difficulté considérable pour rendre compte des cas où précisément on se représente quelque chose sans le poser comme réel. Les cas où on se contente d'imaginer, les cas de fiction, etc. Comment est-ce qu'on va rendre compte de tous ces cas-là ? Ben, dans ces cas-là, si on défend une théorie de ce genre, on pourra dire que les cas où la force est absente sont simplement des cas où la force qui est intrinsèque au contenu, qui fait partie du contenu, qu'on ne peut pas séparer du contenu, cette force est annulée par un élément du contexte où la pensée apparaît. Et c'est d'ailleurs ce que dit Spinoza. Évidemment, Spinoza est bien au courant du fait qu'on peut très bien penser à quelque chose sans du tout poser la chose comme existante. On peut très bien savoir que la chose n'existe pas, ça n'empêche pas de se la représenter. Mais ce qu'il dit, c'est que dans ce cas, il y a l'acte mental qui consiste à poser la réalité de la chose, et c'est ce qu'on fait quand on pense la chose. Mais il y a plein d'autres choses dans le contexte mental qui nous dit ça, non, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des éléments du contexte mental qui annule en quelque sorte la force qui est intrinsèque au contenu. Le contenu vient avec une certaine force, mais cette force peut se trouver annulée par des éléments contextuels plus puissants. comme la connaissance du fait que c'est de la fiction, par exemple. Donc il y a cette idée d'annulation, ou si on veut, d'inhibition, qui est présente déjà chez Spinoza, et Nietzsche nous dit que on peut très bien... J'ai oublié de vous montrer Spinoza. Nietzsche nous dit qu'on peut très bien considérer que c'est ce qui se passe quand vous avez un énoncé conditionnel. Si vous avez l'énoncé « s'il pleut demain, je n'irai pas me promener », si vous pensez ça, ben forcément, vous pensez, il y a une pensée qui fait partie de cette pensée complexe, c'est la pensée qu'il pleut demain, ou qu'il pleuvra demain. C'est l'antécédent. Donc cette chose-là, vous pensez, vous représentez cette situation, il pleut demain, mais c'est à l'intérieur de cet ensemble plus complexe qui est la pensée conditionnelle, s'il pleut demain, je n'irai pas me promener, et la pensée, il pleut demain, enchâssée dans cette structure complexe, perd sa force, la force est annulée, à cause de l'enchâssement sous le « si ». Quand on dit « si », on annule automatiquement la force de la proposition qui suit. Même si le contenu propositionnel est intrinsèquement assertif, il y a cette possibilité d'annulation, et c'est ça à quoi doit faire appel le type de théorie inspirée de Spinoza dont je vous parle et dont Nietzsche dit que c'est une possibilité. Et de même, évidemment, pour ce qui est de l'acteur sur scène, le fait d'être dans un contexte ici, là on parle d'un contexte public, l'acteur il est sur scène dans un théâtre à l'heure de la représentation, comme nous dit Demette. Et donc ce contexte-là annule la force des propos qu'il tient. Donc il fait des affirmations, il pose des questions, mais rien de tout cela n'est ni une vraie affirmation ni une vraie question, parce que ça se place dans un contexte qui annule la force de tout ce qui se passe dans ce contexte. Donc il y a cette possibilité que mentionne brièvement Nietzsche dans ses passages, possibilité de rendre compte des cas où la force est absente en postulant quelque chose de plus, par exemple cet élément de simulation, comme ce qui se passe sur la scène, et c'est quelque chose de plus annule la force qui serait inhérente au contenu. Donc ça, c'est une position possible que Nietzsche attribue donc à Spinoza. Enfin, c'est une position dont il pense qu'on peut la tirer de... On peut voir, avoir une inspiration dans Spinoza pour défendre une position de ce genre, position qui semble l'intéresser lui-même, même si ce n'est pas la position officielle qu'il défend. Et cette position spinoziste, ce qui est... Donc Nietzsche a fait cette remarque en passant, comme je disais, et puis bien peu de gens ont remarqué. Il faudrait, bon, on parle de Nietzsche, l'argument de Freud de Nietzsche, il y a des gens qui vont regarder les articles en question, mais enfin, c'est surtout des contenus qui sont transmis. Peu de gens sont allés véritablement voir l'original et remarquer effectivement cette alternative qui est mentionnée par Nietzsche. Mais ce qui se passe dans le... Et je pense que donc c'est pas très très connu, mais ce qui s'est passé, tout à fait indépendamment de ces remarques de Nietzsche, c'est que dans les débats contemporains, tant en philosophie du langage qu'en philosophie de l'esprit, quelque chose comme cette position-là, dont Nietzsche mentionne qu'elle est possible et qu'il attribue à Spinoza, quelque chose comme cette position-là est revenu au devant de la scène. Donc, encore une fois, indépendamment des remarques de Nietzsche, pour des raisons tout à fait indépendantes. Je donnerai deux exemples, en fait, plus que des exemples, parce qu'au moins pour le second, je vais développer un peu. Autour notamment de Peter Hartz, un philosophe américain, des gens ont soutenu que les contenus propositionnels sont intrinsèquement assertifs. Là, le genre de choses à quoi pense Hartz, c'est des propositions comme la proposition... que Jean est intelligent. Traditionnellement, on considère qu'une proposition, suivant Frege, c'est quelque chose qui est neutre quant à la force et qui peut ou non être associée à la force de l'affirmation ou la force d'une question ou qui peut être totalement dénuée de force si c'est simplement une proposition qu'on se représente sans accomplir un acte mental ou linguistique particulier. Donc c'est la conception traditionnelle. Et des gens comme Peter Hanks disent que en fait, cette conception est fausse et la distinction force-contenu n'est pas cohérente en réalité. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une proposition, comme la proposition dont Jean est intelligent ? C'est difficile de dire ce que c'est une proposition. Ça a des ingrédients, comme on dit, Jean, l'intelligence, la propriété d'intelligence, tout ça, ça fait partie de la proposition. Mais il y a un élément crucial pour avoir une proposition, c'est qu'il faut avoir quelque chose qui noue ensemble les différents ingrédients, l'objet dont on parle, la propriété qu'on lui attribue. Il faut unifier ces choses. C'est pareil avec la notion d'état de choses. Un état de choses, c'est quelque chose où il y a des constituants, mais c'est une sorte d'unité complexe. Et c'est véritablement une unité. Or, ce qui fait l'unité d'un état de choses ou d'une proposition, c'est le fait que ces différents éléments, les différents ingrédients, s'associent ensemble, se combinent ensemble. Et cette combinaison, cette association correspond, dans le cas des propositions, à l'idée de prédication. Jean est intelligent, vous avez l'ingrédient Jean, on parle de Jean, vous avez la propriété d'être intelligent, tout ça est impliqué dans la proposition. Et il y a un élément fondamental qui fait l'unité de la proposition, c'est le fait que la propriété est attribuée et prédiquée de Jean. C'est quand vous préditez l'intelligence de Jean que vous avez la proposition que Jean est intelligent. Et si vous n'avez pas cet acte de prédication, vous n'avez pas la proposition. Vous avez besoin de que ces deux éléments soient mis ensemble pour faire une unité. Donc on a besoin de la prédication pour garantir l'existence même du contenu propositionnel, la proposition que Jean est intelligent. Or, qu'est-ce que c'est que prédiquer de Jean la propriété d'être intelligent ? C'est là que... Là, c'est un autre débat auquel je fais rapidement allusion. Peut-être que je ne devrais pas en parler parce que c'est une digression. Mais il y a des gens qui vont dire que la prédication, c'est quelque chose de primitif et mystérieux. On ne sait pas ce que c'est, mais ça existe. Et c'est ça qu'on a dans la proposition. Et on a besoin de ça, sans quoi il n'y aurait pas de proposition. Et une autre façon de voir les choses, qui est justement la façon de voir de Hanks, c'est de dire que prédiquer la propriété d'être intelligent de Jean, attribuer à Jean la propriété d'être intelligent, c'est attribuer à Jean la propriété d'être intelligent. Et ça, c'est quelque chose qui est correct si Jean est effectivement intelligent, et que si Jean n'est pas intelligent, c'est incorrect, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Donc, en fait, cette propriété prédiquée, ça n'est pas autre chose qu'attribuer, c'est-à-dire qu'affirmer l'intelligence de Jean. Donc, c'est l'acte d'assertion qui se révèle être intrinsèque à la proposition, puisque qu'est-ce que c'est que la prédication ? En fait, c'est l'assertion. Ça n'est rien d'autre. Et la raison pour laquelle on a voulu dissocier la prédication et l'assertion, c'est parce qu'il est possible d'avoir une proposition comme la proposition que Jean est intelligent, qu'on n'asserte pas. Par exemple, si j'ai un conditionnel, si Jean est intelligent, il s'apercevra qu'à ce moment-là, je ne l'asserte pas. Il y a la proposition, elle est là, mais je ne l'ai pas assertée. Et puis, il y a plein de cas où on n'asserte pas, on se contente de concevoir une proposition. Donc, c'est à cause de ça qu'on a voulu séparer prédication et assertion. Mais ce que dit Hanks, c'est qu'on n'a pas besoin de les séparer. On peut très bien dire que le contenu propositionnel est intrinsèquement assertif parce que la prédication n'est autre qu'un élément de type assertif. Mais on peut admettre quand même qu'il y a des cas où la force n'est pas présente, où on se contente de concevoir cette proposition sans l'affirmer. Mais on doit dire à ce moment-là que dans ces cas-là, la force intrinsèque du contenu est annulée par le contexte dans lequel ce contenu intervient. Et c'est ça le genre de position que défend Hanks. Ça a fait appel à la notion d'annulation de la force, qui, une fois qu'on commence à y réfléchir, est une notion extrêmement difficile, extrêmement délicate. Il y a toute une littérature sur l'annulation de la force. C'est vraiment quelque chose qui se passe en ce moment. Moi-même, j'ai écrit plusieurs articles là-dessus. Ça, c'est le premier d'une série. J'en ai quelques autres. Donc, il y a des débats là-dessus. Est-ce qu'on peut arriver à donner sens à cette idée et à poursuivre cette perspective, disons, spinoziste, fondée sur l'idée qu'on va rendre compte des cas où la force est absente en disant que, dans ces cas-là, la force est annulée. Je signale aussi que dans ce colloque sur la distinction force-contenu qui a eu lieu l'année dernière et qui se trouve, dont les vidéos se trouvent sur le site web, enfin tout ça est en anglais, il y a eu un certain nombre de discussions de ces théories et des différentes façons de les interpréter. Mais c'est tout ce que je dirais sur ce débat-là. Peut-être que j'en parlerai l'année prochaine, parce que je considère la possibilité de prendre comme thème la prédication, justement, mais je ne suis pas encore bien sûr exactement du thème que je vais choisir pour l'année prochaine. Mais maintenant, je voudrais signaler qu'il n'y a pas que les philosophes du langage. Du côté des philosophes de l'esprit et même des psychologues, il y a des discussions qui vont dans le même sens, en toute indépendance de ces discussions dont je viens de parler de philosophie du langage, en toute indépendance aussi des débats autour de Frege, des remarques de Gitsch, etc. Ça, c'est un psychologue, Daniel Dilbert, qui a joué un rôle important dans les discussions récentes pour deux choses. D'abord, c'est lui qui, plus que tout autre, a en quelque sorte remis Spinoza dans le circuit, parce que j'ai dit que les remarques de Gitsch sont passées inaperçues. Par contre, lui, Daniel Dilbert, qui est un psychologue et qui s'intéresse aux mécanismes psychologiques de fixation des croyances, comme on dit dans ce domaine, une des choses qu'il a faites, c'est de dire qu'il y avait deux grands modèles de la façon dont l'esprit procède pour juger, deux grands modèles du jugement, disons, un modèle cartésien, nous dit-il, et un modèle spinoziste. Donc lui a fait référence à Spinoza, et contrairement à Peter Ditch, lui, sa référence à Spinoza n'est pas passée inaperçue, parce qu'il y a eu tout un ensemble de personnes qui se sont engouffrées dans la brèche en parlant du modèle spinoziste. Non pas que ces personnes soient allées voir du côté de Spinoza, je ne pense pas, mais en tout cas, l'idée elle-même a été très influente. Et il y a une littérature autour des questions dont je vais parler dans un instant. Évidemment, on pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles Daniel Dilbert parle de Spinoza et surtout comment connaît-il Spinoza ? D'où il a pas lu Gitsch. Il n'y a pas de raison. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas sa biographie. Il a eu un passé en histoire de la philosophie. En fait, je crois avoir trouvé, et je pense que ça vient de William James. William James est à la fois un grand philosophe et un grand psychologue de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc ses principes de psychologie ont été absolument fondateurs, parce que c'est un philosophe, mais il a été un des fondateurs de la psychologie scientifique qui s'est beaucoup développée, évidemment, au XXe siècle. Et dans ses principes de la psychologie, qui sont un livre très influent et très lu par les psychologues, lui parle de Spinoza et il parle de cette théorie. Donc je pense que c'est de là que ça vient. En tout cas, qu'est-ce que c'est que la position cartésienne et la position spinoziste ? La position cartésienne, nous dit Dilbert, c'est l'idée qu'il y a ces deux étapes. On revient toujours à ces deux étapes. Il y a d'abord la conception, où vous concevez quelque chose, vous pensez quelque chose, vous formez une pensée. Ça, c'est l'entendement. C'est quelque chose qui relève de l'entendement. La faculté impliquée, c'est l'entendement. Par contre, quand il s'agit de juger si quelque chose est vrai, d'accepter ou pas quelque chose, ou de refuser, etc., quand il s'agit de l'attitude de l'esprit vis-à-vis d'un contenu qui a été saisi, comme dit Frege, à la première étape, l'attitude de l'esprit, ça relève non pas de l'entendement, mais de la volonté. Vous décidez si vous acceptez ou pas. Et puis vous êtes libre d'accepter ou pas quelque chose dans votre créance, comme il dit. Donc ça, c'est la volonté, on choisit, on est libre. Et c'est par la volonté qu'il peut même suspendre son jugement sur toutes sortes de choses qui paraissent évidemment vraies, mais pour les besoins de son argumentation philosophique, il décide de suspendre son jugement. Il a le droit, c'est un acte de la volonté. Donc il y a cette idée qu'il y a ces deux étapes. On commence par concevoir, par penser, par se représenter, et on accepte ou pas. Et l'acceptation, c'est une deuxième étape. Donc c'est un peu la même idée qu'on a chez Frege et qu'on a chez ma traverse. Mais Spinoza, nous dit Gilbert, Spinoza rejette cela. Il rejette cette idée qu'on puisse précisément séparer le contenu que l'on conçoit de l'acceptation qui relèverait d'une autre faculté. Et lui pense que les deux choses ne peuvent pas être dissociées, puisque, à nouveau, se représenter une situation, c'est la poser comme réelle ou comme existante. Il y a donc un élément d'acceptation qui est irréductible dans la conception elle-même Et tout ce qu'on peut faire, c'est l'annuler, cet élément d'acceptation, par des éléments plus forts qui vont conduire globalement au rejet du contenu en question. Mais le contenu, il est quand même intrinsèquement assertif. Donc tout ce qu'on peut faire dans cette perspective spinoziste, tout ça c'est ce que nous dit Gilbert, c'est pas vrai qu'il y ait une première étape neutre où on conçoit des choses sans prendre de position et qu'ensuite on accepte ou pas. Ce qu'il nous dit, c'est que dès le départ, il y a une forme d'acceptation qui fait partie de la conception elle-même. Concevoir, se représenter quelque chose, c'est accepter la réalité de quelque chose. Mais cette acceptation qui fait partie du contenu lui-même, en quelque sorte, peut être annulée et on peut rejeter cette chose qu'on a d'abord acceptée. On peut réviser ses croyances. Un exemple dont je parlerai dans un instant, où c'est évident que ce modèle fonctionne, ce modèle que Gilbert appelle spinoziste, où on commence par croire, on commence par accepter, et éventuellement on révise ensuite, on annule cette acceptation, c'est clairement ce qui se passe ou ce qui semble se passer dans la perception. Vous voyez quelque chose, vous croyez ce que vous voyez, et éventuellement vous vous rendez compte que c'est une illusion ou que ce n'est pas ce que vous croyez. On peut difficilement ne pas accepter le témoignage de nos sens, comme on dit. Donc, précisément, c'est la perception qui nous fournit un domaine d'application évident pour le modèle spinoziste. Imaginez ce que serait le modèle cartésien pour la perception. Le modèle cartésien, c'est l'idée que il y a certains contenus de pensée qui nous sont fournis, donc par exemple la perception nous fournit des contenus de pensée. Je vois quelque chose, donc j'ai une certaine pensée, la pensée « il y a un ours devant moi ». Cette pensée, je la conçois, et il y a une deuxième phase, la phase d'évaluation. J'essaie d'évaluer si c'est vrai ou pas. Et si c'est vrai, si mon évaluation est positive, je crois qu'il y a un ours devant moi. Si mon évaluation est négative, ben je ne le crois pas. Le problème avec cette façon de concevoir la perception a été souligné dans un des textes qui a repris les idées de Gilbert et cette idée du modèle spinoziste. C'est un article de Andy Egan où il dit que ce serait dramatique, un modèle cartésien de la perception, si c'était comme ça qu'on fonctionnait, ce serait vraiment suicidaire. Si on prenait le temps de réfléchir et d'évaluer les contenus de pensée quand on a un ours devant soi, ben, on perdrait un temps vraiment précieux. Donc il est beaucoup plus rationnel, disons, de croire d'emblée, croire ce qu'on voit, d'agir éventuellement en conséquence, et puis après on peut réviser si on s'aperçoit que c'était une illusion. Mais il vaut mieux pas commencer à se demander ce que je vois. Il faut accepter d'abord, il faut que ce soit un réflexe, il faut que l'acceptation soit en quelque sorte par défaut, on accepte immédiatement les contenus qui nous sont fournis par la perception, parce qu'ils nous sont fournis par la perception. L'argument que donne Egan, c'est une sorte d'argument évolutionniste. Si on avait un sujet qui fonctionnait de la manière cartésienne et qui réfléchissait toujours, qui prenait le temps d'évaluer les contenus avant d'en faire quoi que ce soit, avant de les accepter et d'agir, un tel sujet serait rapidement rayé de la carte parce que précisément il réagirait trop lentement. Donc, du point de vue, ce serait évolutionnairement non viable une telle stratégie. Il vaut mieux croire d'abord et vérifier ensuite, quitte à s'apercevoir qu'on s'est trompé. Et c'est précisément ce que préconise, disons, la stratégie spinoziste. Donc, ça, c'est le type d'argument que donne Egan. Et donc, pour la perception, on a des raisons de dire qu'effectivement, un modèle spinoziste est plus vraisemblable qu'un modèle cartésien, de la façon dont le sujet fait ses jugements, disons, dans le cas de la perception. Il y a cette idée que le jugement est automatique, l'acceptation est automatique dans la perception et peut simplement être révisée ou annulée a posteriori. Alors, souvenez-vous de Matraverse, dont je parlais donc la dernière fois, ce livre « Fiction and Narrative ». Matraverse distingue la confrontation et la représentation. C'est cette distinction-là qui lui sert d'arguments contre les simulationnistes, il pense que dans la confrontation, ce qu'il appelle la confrontation, c'est la perception. La confrontation, c'est vous avez un ours, ouais. Vous avez un ours en face de vous, c'est ça la confrontation. Et il dit quand vous avez un ours en face de vous, vous pouvez réagir immédiatement, la situation vous est donnée, vous n'avez pas besoin de bâtir un modèle mental, de simuler, de faire quoi que ce soit de ce genre. Vous pouvez agir directement. Donc dans ce cas-là, je pense qu'il accepterait effectivement une position ou un modèle spinoziste. Quand il y a confrontation perceptuelle avec une situation, vous croyez automatiquement ce que vous voyez, quitte à le remettre en cause, si vous apercevez que vous êtes trompé ou que c'est une illusion. Donc, on a tout de suite la croyance ou le jugement dans le cas de la confrontation. Mais ce qu'il dit, c'est que dès qu'on a représentation, et ce n'est pas propre à la fiction, c'est ça qu'il insiste là-dessus, que ce soit de la fiction ou pas de la fiction, ça n'a aucune importance, dans tous ces cas-là, quand une situation est représentée, elle n'est pas donnée directement. Donc, il s'agit d'abord de comprendre, d'accéder au contenu de la représentation, c'est-à-dire de se représenter la situation décrite, de construire un modèle mental de la situation décrite. Ça, c'est une opération qui relève de l'imagination. Et ça se passe, quel que soit le texte, que ce soit un texte fictionnel ou un texte non fictionnel, dans tous les cas, il y a cette activité imaginative consistant à se représenter les situations décrites par le texte. Et dans le cas de la non-fiction, vous pouvez considérer que le texte est un texte qui vise à vous apporter des informations de la part d'une source fiable, etc., et que vous n'avez pas de raison de douter de ce qu'il vous dit, et donc, dans une deuxième étape, vous croyez, vous acceptez ces choses, et à ce moment-là, ce qui était simplement de l'imagination à la première étape devient de la croyance. Alors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cas de la fiction, eh ben, on a bien cette imagination qui est commune avec le cas de la représentation non fictionnelle, imagination qui est propre à toute représentation, mais il n'y a pas de transformation en croyance, il n'y a pas d'acceptation, ça reste de l'imagination. Donc, il est clair que si on formule les choses dans le cadre de cette opposition entre le modèle cartésien et le modèle spinoziste, il est clair que Matravers accepte le modèle spinoziste pour la perception, pour la confrontation, mais que pour la représentation, il prend un modèle cartésien en deux étapes, la conception et puis l'acceptation. Mais il est clair, à travers l'espace logique qui se déploie, qui a la place aussi pour des positions qui, contrairement à celles de Matravers, voudraient adopter la stratégie ou le modèle spinoziste, pas seulement pour la perception, mais aussi pour... Alors, lui parle de représentation. Là, je préfère parler de communication. Est-ce que les deux correspondent ou pas ? C'est une question que je préfère laisser ouverte. La communication, en gros, c'est le cas où quelqu'un vous dit quelque chose ou bien vous lisez un texte, ce genre de cas-là. Ça peut être aussi, c'est pas forcément quelque chose de linguistique, on peut communiquer en vous montrant des images, etc. Et on peut considérer que la communication s'étend de façon très large, mais disons, pensez au cas de la communication linguistique comme étant le cas central. Et pour ce qui est au moins de la communication linguistique, donc quand quelqu'un vous dit quelque chose, le modèle cartésien que propose Matravers, pour qui tout ça c'est des représentations, les mots, les énoncés produits par quelqu'un qui vous parle, représentent, ont un contenu, ils représentent des situations qui ne sont pas les situations à quoi vous êtes confronté, mais ce sont des situations qui sont représentées dans le discours. Donc pour lui, c'est de la représentation, et ce qu'il dit s'applique. Donc la question, c'est est-ce que ce modèle cartésien de la communication où on commence par comprendre ce qu'on nous dit et ensuite, dans un deuxième temps, on accepte ou pas ce qu'on nous dit, et ce modèle en deux étapes marche pour tous les cas de communication selon Matravers. Il faut toujours commencer par comprendre ce qu'on nous dit et ensuite, éventuellement, on accepte. Ou on s'aperçoit que c'est de la fiction et la question ne se pose pas, ou bien on s'aperçoit que la source n'est pas fiable et on n'accepte pas. En tout cas, il y a ce modèle cartésien, et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a la place pour une approche spinoziste de la communication elle-même. Et c'est exactement ça que défend Gilbert. C'est ça la position de Gilbert. Ce que Gilbert nous dit, parce que Gilbert, lui, ce qui l'intéresse, c'est la compréhension des textes. Il ne s'intéresse pas particulièrement à la perception. Donc, quand il nous parle du modèle spinoziste, il a en tête la communication. Et que nous dit un modèle spinoziste pour la communication? Ça nous dit que quand quelqu'un nous dit quelque chose, on a un premier mouvement qui est un réflexe, en quelque sorte, qui est de croire ce qu'on nous dit. De même que quand vous voyez quelque chose, vous croyez ce que vous voyez, quitte à réviser l'instant d'après, quand vous apercevez que c'est une illusion. De même, quand on vous dit quelque chose, un réflexe consiste à le croire, un réflexe qu'on peut évidemment combattre si on sait que la personne qui nous parle n'est pas fiable ou si on sait que ce qu'on nous dit est incohérent, etc. Il y a plein de raisons de rejeter ce qu'on nous dit. Mais le premier mouvement consiste à croire. Par défaut, on croit. Et donc, ça veut dire qu'on accepte ce modèle spinoziste où on commence par croire et on annule. On applique ça aussi à la communication. Donc ça, c'est la position de Gilbert. Si on utilise un tableau comme le type de tableau dont je me suis servi pour illustrer la position de Matraverse, avec cette opposition, enfin cette tripartition de la confrontation perceptive d'un côté, de l'autre, la représentation qui peut être fictionnelle ou non fictionnelle, on voit que pour ce, du point de vue spinoziste, dans tous les cas, on a l'acceptation par défaut. On accepte par défaut le témoignage de nos sens, on accepte par défaut le témoignage des autres, et tout ce qu'on peut faire, c'est annuler, réviser, rayer, barrer, rejeter, dans un deuxième temps. Donc, dans un deuxième temps, on confirme l'acceptation qui a été donnée d'emblée, ou bien on la révise. Et peut-être que dans le cas de la fiction, évidemment, Gilbert ne parle pas de la fiction, mais peut-être que dans le cas de la fiction, on voudrait dire que ce n'est pas vraiment confirmation ou révision, c'est plutôt que dans la fiction, la force qui fait partie du contenu lui-même est inhibée ou annulée par le fait, la connaissance du fait que c'est de la fiction. Est-ce que c'est peut-être pas tout à fait la même chose que la révision, mais disons, on ne va pas s'arrêter à cette question-là. Donc j'ai dit que Gilbert est celui qui a fait surgir le nom de Spinoza dans ses débats, d'une façon qui a été effectivement influente, puisque maintenant les gens parlent de Spinoza dans ses débats. J'ai dit que ça lui venait vraisemblablement de William James. Mais en fait, la position qu'il défend, Gilbert, ressemble beaucoup plus... Enfin, c'est très bien qu'il ait parlé de Spinoza, il y a effectivement une vraie filiation et un vrai rapport. Mais ce à quoi cette position ressemble le plus, c'est aux idées de Thomas Reed. Mais Thomas Reed, c'est un grand philosophe écossais du XVIIIe siècle. Thomas Reed, évidemment, il est beaucoup moins connu que Spinoza. C'est pas que... En France, Reed est un auteur à peu près ignoré. C'était curieux parce que la philosophie écossaise, dont il est le chef, disons, chef de file, a été extrêmement populaire à une époque, au XIXe siècle en France. Extrêmement populaire, et du coup, on trouve traduit en français les œuvres complètes de Reed. Enfin, c'est évidemment, il faut aller chez les bouquinistes pour trouver ça. Mais ce n'est plus du tout dans les programmes, je pense. Or, Thomas Reed, donc là, je le mentionne ici, parce que lui, il est celui qui a dit, il est celui qui a défendu la position selon laquelle nous avons un instinct qui nous pousse à croire ce qu'on nous dit. Donc, c'est un instinct. Je parlais tout à l'heure de réflexe. C'est ça que ça veut dire. C'est un réflexe. On nous dit quelque chose, on le croit. On ne peut pas s'empêcher. C'est pareil, dit-il, que l'instinct qui nous pousse à croire le témoignage de nos sens. Donc, on a cet instinct qui nous pousse à croire ce qu'on nous dit. Évidemment, c'est une réaction immédiate et instinctive, et ça n'empêche pas, dans un deuxième temps, de remettre en cause cette acceptation et d'annuler cette acceptation, si on s'aperçoit qu'en fait, c'est du n'importe quoi ce qu'on nous a dit. Donc, il y a cette position que quelques philosophes contemporains défendent, la position qui consiste à dire que la communication et la perception fonctionnent de la même façon spinoziste, disons, avec acceptation par défaut. Alors, pour ce qui est de la communication, cette théorie a été critiquée. Un certain nombre d'auteurs qui la critiquent, la théorie de Gilbert aussi, qui ressemble beaucoup, a été critiquée. Notamment récemment, très récemment, il y a eu un article à propos de la théorie de Gilbert qui la critique aussi. La théorie de Reed a été critiquée notamment par Dan Sperber, qui est ici et qui va nous parler tout à l'heure dans le séminaire à 3h30. Et donc, une des raisons de rejeter cette théorie de Reed, l'idée qu'on a cet instinct, qu'on croit automatiquement ce qu'on nous dit, et que donc c'est la perspective spinoziste qui s'applique à la communication et pas seulement à la perception, une des raisons de critiquer cela et de rejeter cela, c'est un argument du même genre que celui de Andy Egan, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que ce serait, d'un point de vue évolutionniste, ce serait non viable. Quelqu'un qui croirait automatiquement ce qu'on lui dit, il ne fera pas de vieux os non plus. C'est comme celui qui ne croit pas automatiquement le témoignage de ses sens. Celui-là non plus ne fera pas de vieux os. Donc c'est un peu le même argument. Parce qu'un sujet qui croit automatiquement ce qu'on lui dit, avant toute évaluation, se prête à la manipulation et n'est pas en mesure de défendre ses propres intérêts, évidemment. Il va se faire rouler dans la farine sans arrêt. Et donc, on peut utiliser contre ce type de théorie un argument évolutionniste qui est du même genre que l'argument utilisé par Egan. Lui, il utilise l'argument pour le modèle spinoziste dans le cas de la perception. Mais on peut utiliser le même argument contre le modèle spinoziste dans le cas de la communication. Alors, je voudrais préciser que, cependant, cette critique n'est pas complètement évidente dans le cas de Reed, parce que Reed prend le soin de coupler cet instinct de crédulité, comme il l'appelle, l'instinct qui nous pousse à croire ce qu'on nous dit, par réflexe. Reed dit que cet instinct va de pair avec un autre instinct, et c'est vraiment une paire, parce que s'ils n'étaient pas ensemble, ça ne marcherait pas, précisément parce que l'argument évolutionniste dont je viens de parler s'appliquerait. Il dit que l'instinct de crédulité va de pair avec l'instinct de véracité. Et l'instinct de véracité, c'est un autre instinct qui nous pousse à dire la vérité. Et Reed a des pages où il essaie de nous convaincre qu'on a vraiment un instinct qui nous pousse à dire la vérité. Ils disent, on sait tous que c'est très très dur de ne pas dire la vérité. On est poussé à dire la vérité, même si il ne faut pas. Il ne faut pas et on le fait quand même, etc. C'est très dur et ça montre bien que notre pente naturelle consiste à dire la vérité. Et à partir du moment où il y a cet instinct de véracité, il n'y a plus l'argument évolutionniste pour dire que ce serait non viable d'avoir un instinct de crédulité parce qu'on pourrait se faire manipuler. Non, si les gens vous disent la vérité et que vous les croyez automatiquement, il n'y a pas plus de problème que dans le cas de la perception. Vos sens vous disent globalement la vérité, donc si vous les croyez automatiquement, vous êtes bien lotis. Mais le problème, précisément, c'est le vrai problème. C'est cette question de la véracité. Est-ce qu'on a vraiment un instinct de véracité? Donc je pense que Reed, son argument n'est pas mal de dire que c'est difficile de ne pas dire la vérité. Il a raison. C'est difficile de ne pas dire la vérité, mais le problème, c'est que c'est aussi... Il y a un humoriste anglophone qui s'appelle Norm Macdonald qui, dans un sketch, il tourne autour de ces questions et c'est très difficile de ne pas mentir. Et donc, c'est exactement le contraire. Et il donne des exemples, et il donne comme argument, comme raison pour laquelle c'est difficile de ne pas mentir, c'est qu'on veut surtout être bien avec les autres, on veut que ça se passe bien avec les autres. Et pour que ça se passe bien avec les autres, c'est très difficile de ne pas mentir. Et en fait, il ne parle pas d'être bien avec les autres, il dit qu'on veut être aimé. Et si on veut être aimé, c'est très difficile de ne pas mentir. Et puis, ça, c'est une chose que Sperber et ses collègues font remarquer, je crois, dans l'article, c'est qu'il y a la question de la réputation. C'est essentiel pour nous de préserver, d'avoir une bonne réputation, d'afficher, enfin, de faire en sorte de ménager notre réputation. Et ce n'est pas forcément compatible avec la véracité. Donc, il y a aussi des raisons de penser que peut-être ce n'est pas si évident que ça qu'il y ait cet instinct de véracité. Et à partir du moment où on a plus cet instinct de véracité, du coup, c'est tout l'édifice effectivement qui s'écroule. Alors, Sperber et ses collègues, dans l'article sur la vigilance épistémique, et Dan Sperber va nous parler tout à l'heure de la vigilance épistémique, il va nous présenter ses idées à ce sujet. Comme vous le verrez, donc, il propose une conception de rechange où il y a bien une sorte de confiance naturelle que nous avons dans le témoignage des autres, dans ça il ne s'agit pas de le nier, mais selon lui, c'est rendu possible par une disposition non moins naturelle qu'il appelle vigilance, disposition à la vigilance, qui consiste à contrôler en permanence et de façon automatique la crédibilité tant de la source, la personne qui nous parle, qui nous donne son témoignage, que des contenus qu'on nous communique, cohérence, etc., de façon à bloquer l'acceptation des contenus en question dès qu'il y a un problème qui apparaît. Et il compare la communication, qui est un mélange donc de confiance et de vigilance, avec ce qui se passe quand on circule au sein d'une foule. Il dit qu'on fait confiance aux autres et en même temps on fait attention. Et c'est parce qu'on est vigilant et qu'on contrôle ce qui se passe qu'on peut en confiance naviguer au sein d'une foule. Donc les deux vont ensemble. Et donc, il faut une conception, disons, plus nuancée, où on rejette cette idée de crédulité, d'acceptation automatique. Ce n'est pas automatique parce qu'il y a la vigilance qui est en place. Alors, en fait, je pense que cette idée de vigilance est compatible avec la position de Reed, si on l'interprète d'une façon relativement modérée ou peut-être légèrement affaiblie. Donc, ce n'est pas... Je ne pense pas qu'il y ait vraiment... Enfin, je pense que l'opposition entre les deux points de vue demande à être considérée avec précaution. Ce qu'on peut soutenir, et donc c'est une version, comme je dis, modérée, de la position reidienne, ce qu'on peut soutenir, c'est que les gens acceptent par défaut ce qu'on leur dit. Donc ça, c'est l'idée de Reed et l'idée de Gilbert. Et les gens n'inhibent l'acceptation automatique de ce qu'on leur dit que lorsque des mécanismes de vigilance, qui fonctionnent en permanence et de façon également automatique, donc ça, on peut l'accepter, envoient un signal d'alarme et recommandent la prudence. Donc le point important pour Sperber et ses collègues, c'est que les mécanismes de vigilance, de contrôle, existent et fonctionnent en permanence. Ce n'est pas qu'ils se déclenchent quand quelque chose ne va pas, parce que comment saurait-on que quelque chose ne va pas? Non, ils fonctionnent en permanence, ils fonctionnent eux-mêmes de façon automatique. Mais on peut quand même accepter, je pense, même si on accepte ça, qu'on accepte par défaut ce qu'on nous dit, si on comprend par là, par défaut, se comprend d'une façon, encore une fois, affaiblie, comme signifiant, on accepte ce qu'on nous dit, à moins que les mécanismes de vigilance n'envoient un signal d'alarme. Quand il y a un signal d'alarme émanant des mécanismes de vigilance, on inhibe la croyance automatique. Mais la croyance est quand même automatique, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a en quelque sorte, en parallèle, cette disposition à la croyance automatique. On vous dit quelque chose, vous formez la croyance correspondante. En parallèle, il y a ces mécanismes de vigilance qui envoient des signaux d'alarme qui conduisent à l'inhibition de cette croyance formé automatiquement. Donc on peut admettre que c'est comme ça que ça se passe dans les cas où il y a nécessité d'inhiber ou d'annuler l'acceptation qui sinon serait acquise des contenus exprimés. Et il y a aussi des cas où il n'y a pas de signal d'alarme, et à ce moment-là, effectivement, il y a eu cette acceptation immédiate, et elle reste ce qu'elle est, elle reste une acceptation immédiate, il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas de révision. Donc ça, c'est une façon de concevoir la conception reidienne qui échappe en partie à l'objection, parce que ça intègre la proposition qui est faite d'avoir en place un certain nombre de mécanismes de vigilance qui fonctionnent de façon automatique et permanente. Et ces mécanismes seraient ce qui distingue la perception et la communication. Parce que dans la perception, il n'y a pas de tel mécanisme. Parce qu'effectivement, la perception est globalement suffisamment véridique pour qu'il n'y ait pas besoin de garde-fous de ce genre. Par contre, dans la communication, il y a besoin de garde-fous. Parce qu'effectivement, la communication peut être trompeuse. Et ça n'empêche pas que tout ça est compatible avec cette disposition à accepter ce qu'on nous dit de façon automatique. Car ici encore, on peut appliquer cette idée d'annulation ou d'inhibition. Alors, dans le peu de temps qui me reste, je voudrais, ayant à nouveau montré qu'en fait on peut réconcilier ces points de vue qui semblent opposés, je voudrais indiquer qu'on peut s'éloigner de cette position reidienne, cependant, même de cette position reidienne modérée que je viens de décrire. Et il y a deux étapes importantes qu'on peut franchir pour s'en éloigner. Et quand je parle de position reedienne, je crois vraiment que ce que dit Gilbert, c'est ce que dit Reed, c'est la même position. Donc, reedienne, gilbertienne, c'est la même chose. On peut s'éloigner de cette position de deux façons. Si on admet avec Sperber, ça c'est le premier élément, si on admet avec Sperber, comme je l'ai fait implicite, enfin, comme je viens de le faire sans dire que je le faisais, si on admet que les processus dont on parle, le processus d'acceptation automatique d'un côté et les processus de vigilance et d'inhibition de l'acceptation de l'autre, si on admet que ces processus fonctionnent en parallèle et non de façon séquentielle, d'abord l'acceptation, ensuite l'annulation, on ouvre la voie à une interprétation non chronologique des deux étapes impliquées par la position, disons, spinoziste, où on a l'acceptation par défaut et l'annulation, éventuellement l'annulation ou l'inhibition. Or, Gilbert offre une interprétation chronologique. C'est quelque chose qui est voulu, ce n'est pas juste pas entrer dans le détail. Il y a cette interprétation chronologique de Gilbert, on commence par croire, et peut-être très vite, on s'aperçoit qu'il ne faut pas et on annule. Mais il y a une autre possibilité, c'est de dire que ce n'est pas chronologique, et donc il y a une version qui est non pas chronologique, mais analytique. Et dans cette conception, dans cette version analytique, les raisons de douter et l'inhibition du jugement qui va de pair avec les raisons de douter, ces raisons peuvent être présentes dès le départ. On peut, dès le départ, avoir toutes les raisons du monde de ne pas accepter ce que quelqu'un nous dit. Et c'est précisément ce qui se passe dans la fiction, pour ça que j'en parle. Lorsqu'on lit un roman, on sait très bien qu'on lit un roman. Donc on ne commence pas par croire ce qu'on lit avant de se rendre compte qu'il s'agit d'une fiction. Bien sûr qu'on ne commence pas par croire avant, non. On sait d'emblée que c'est une fiction. Donc, d'emblée, on inhibe. Ça n'empêche pas qu'on a cette disposition à croire ce qu'on lit, mais qui est d'emblée inhibé. Donc, d'emblée, il s'agit d'un jugement inhibé, d'une croyance inhibée, soit de ce que les simulationnistes appellent une simulation de la croyance. Mais cependant, dans cette perspective-là, c'est quand même une position spinoziste, parce que l'état mental du sujet, même quand il sait d'emblée que c'est de la fiction, et que donc à aucun moment il ne croit, puisque d'emblée, cette croyance est inhibée, annulée, et que, en fait, ce qui reste, c'est un état d'imagination, comme les simulationnistes l'appellent. Donc cet état d'imagination est analysé comme résultant de l'interaction de deux forces, la force des ondes oxastiques, la force de la croyance, et l'inhibition, les deux jouant concurremment et de façon parallèle, comme je disais. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. On peut, et ça s'éloigne complètement de ce que pensent Gilbert et Reed, parce que dans cette perspective-là, dans un certain type de cas, comme dans le cas de la fiction, à aucun moment on ne croit véritablement ce qu'on lit, parce qu'on sait d'emblée, tout de suite, que c'est de la fiction. À aucun moment on ne le croit, ça n'empêche pas qu'on peut décrire l'état d'imagination qui est là, au départ, comme étant la simulation d'un état d'oxastique, mais l'état d'oxastique n'est jamais réalisé en tant que tel. L'inhibition est toujours déjà là, si je puis dire. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire pour s'éloigner de Gilbert et de Reed. Et on peut aller encore plus loin pour s'en éloigner. Moi, je ne sais pas si j'ai envie de m'en éloigner à ce point, mais on peut, si on veut, dire, et ça, je crois que c'est la position de Matraverse, ce serait la position de Matraverse, que quand il s'agit de communication ou de représentation, quand il s'agit de quelque chose qu'on vous dit, quelque chose que vous lisez, etc., il y a toujours l'inhibition, c'est comme avec la fiction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est quelque chose qu'on vous dit, donc ça c'est une position possible, le sujet, à partir du moment où c'est quelque chose qu'on lui dit, le sujet inhibe son acceptation de l'information communiquée ou du contenu exprimé, tant qu'il n'a pas pesé le pour et le contre. Donc la simple reconnaissance du fait que c'est de la communication suffirait à déclencher l'inhibition de la croyance, de façon à obtenir cet état d'imagination, tel que décrit par les simulationnistes, donc un état qui résulte de la simulation d'un état d'oxastique. Donc cet état d'imagination résultant de l'inhibition, c'est tout ce qu'on a tant qu'on n'a pas évalué si c'était quelque chose de crédible ou pas. Et une fois qu'on a évalué et que ça paraît crédible, là, il y a la transformation il y a l'acceptation qui intervient dans un deuxième temps. Et ça, c'était le modèle que j'avais proposé pour montrer que la théorie de Matravers était en fait compatible avec une certaine version de la position simulationniste, et maintenant je dirais en fait que c'est compatible avec la position spinoziste. Il y a cette idée que l'état d'imagination qui caractérise la situation du sujet qui lit un texte de fiction, cet état lui-même doit être analysé comme un état d'autastique inhibé. Donc ça, c'est vraiment l'idée des simulationnistes. Mais ça n'empêche pas qu'on peut accepter le point de vue de Matravers, qui dit que cet état-là d'imagination, si dans un deuxième temps intervient l'acceptation, à ce moment-là, ça donne lieu à une croyance. Donc, ce que je montrais la dernière fois, c'est que même cette perspective de Matravers est compatible avec l'idée simulationniste de base, l'idée que ce qui est premier, c'est le jugement. Et que les états de type imaginatif, les cas où on fait des suppositions, toutes ces choses-là doivent se voir comme définis par rapport à cet état de jugement et comme résultant d'une forme d'inhibition. Je pense que ce cadre théorique général qu'on peut appeler spinoziste, si on veut, qui revient à dire que les contenus sont intrinsèquement assertifs et à faire appel massivement à ces idées d'annulation d'inhibition, je pense que ces cadres sont en fait compatibles avec tout un éventail de positions, ce qui inclut la position ridienne modérée que je décrivais tout à l'heure, qui nous dit qu'on croit par défaut et il peut y avoir, disons, l'annulation ou pas. Il y a aussi la position qui nous dit que l'annulation peut avoir lieu dès le départ. Il y a même la position qui nous dit qu'on annule toujours, il y a toujours cette inhibition dès le départ à partir du moment où il s'agit de communication. Toutes ces positions-là, je pense, sont compatibles avec l'idée générale que ces états, qu'on peut appeler des états d'imagination si on suit les simulationnistes, eux-mêmes résultent d'une forme d'inhibition de cette chose qui est la chose la plus fondamentale et qui est le jugement. Voilà, c'est ça ce que j'avais à vous dire. Donc, on a la chance d'entendre un exposé qui portera sur les mêmes questions, donc par Dan Sperber lui-même, et ça aura lieu à 3h30. Donc, je vous dis à tout à l'heure.